Vous écoutez
RMC.
Les infos compos de Fabrice Hawkins pour demain. Donnarumma sera dans les buts.
Forcément.
Grosse info.
Peut-être le déplorer, mais enfin, peut-être le déplorer sur match aller, mais enfin, c'est comme ça. Défense, attention, changer. Marquinhos passe de latéral droit à la défense centrale. Enfin, il revient à la défense centrale. Il sera en défense centrale avec Lucas Hernandez. Nuno Mendes à gauche, Hakimi de retour de suspension à droite. Bon, là, on revient à une sorte de normalité, on va dire. Mm-hmm. Milieu,
Zaïre. Normalité pour qui?
Enfin, on va dire un truc un peu plus logique, une sorte de logique.
Pour qui?
Fabrice Hawkins, qui pense ça. Là, c'est ce que pense Fabrice.
Voilà. Une logique pour beaucoup de gens, mais c'est pas ce qu'on a.
Disons qu'on a toujours connu quand même Marquinhos plutôt dans l'axe que latéral.
Oui, mais c'est pas. C'est
plutôt Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés.
Ce qu'on a vu. Alors, certes, Nuno Mendes a été blessé longtemps, mais effectivement, j'ai l'impression que demain, on est en train de prendre la direction de quelque chose de logique. Après, jusqu'au dernier moment.
Et son Gilbert terminé.
Jusqu'au dernier moment, on ne sait jamais, donc j'attends la suite.
Non, mais pour l'instant, moi, ce qui m'interpelle, parce que ces infos-là, si tu te reportes avant le match aller.
Zaïre Emery sera titulaire au milieu. Là, Fabrice ne se mouille pas trop. Il dit soit Ugarte, soit Ruiz. Mmh. Voilà, donc Zaïre Emery.
Et Vitinha,
donc, qui sera. Zaïre Emery, Vitinha, sûr. Et le troisième sera Ugarte ou Ruiz. Là, voilà, il ne se mouille pas trop. Et puis devant, le trio Dembélé, Mbappé, Barcola.
Mmh. Très bien.
Voilà ce que nous annonce Fabrice ce soir.
Fabrice aura peut-être raison, et j'imagine qu'il a beaucoup travaillé pour essayer de construire ce
mais s'il attend, on lui en vaudra pas trop, parce que vu.
Non, mais voilà, selon les hypothétiques, mais oui. Ça reste son travail, parce que avant le match aller, personne n'imaginait la veille la composition du Paris Saint-Germain. Comme ce soir, personne n'imagine ce que sera demain la compo du Paris Saint-Germain. La logique, elle amènerait vers ça, et encore, la logique, elle voudrait peut-être que Gonçalo Ramos ait sa place là-dedans.
Le PSG ne part pas en position favorable demain, et je trouve regrettable quand même qu'on en arrive à la veille du match le plus important de la saison pour le PSG, maintenant, à un retour en arrière, à savoir un retour au début de la saison, où effectivement, il n'y avait que deux questions à se poser dans l'équipe, grosso modo. Est-ce que Ruiz ou Ugarte? Et est-ce que devant... Ah non, à l'époque, c'était plutôt est-ce que Colomoni ou Ramos? Bon, visiblement, on partirait plus sur Barcola, Mbappé, donc en neuf, et Dembélé sur le côté. Je le déplore, je le regrette, parce que je pense que la meilleure formule pour cette équipe-là, ça serait avec Ramos en neuf et Mbappé sur le côté, parce que Mbappé préfère jouer avec un neuf. Je pense qu'on ne la verra plus, ou en demi-finale, ou en finale, qui sait, j'en sais rien, j'y crois pas, mais je trouve ça fou.
Toi, tu crois pas, Daniel?
Non. Mais je trouve ça fou, parce que si cette équipe-là, sans ces multiples changements, avait travaillé plus souvent et plus longtemps ensemble cette année, avec l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe et ce qui a été construit au début de la saison, si on ne s'était pas perdu dans des expériences qu'ont rarement montré leur bien fondé, je pense que le PSG serait aujourd'hui en meilleure position face au Barça. Et je pense que le PSG aurait dû éliminer le Barça. C'est pas complètement mort, bien sûr. C'est un 70-30. Il faut être tout à fait honnête. Il faut être lucide. C'est un 70-30. Tu perds au match aller. T'as pris 3 buts. Tu joues quand même contre le Barça. C'est pas les derniers des pimpins, quand même. On est en train de parler d'une vraie bonne équipe qui risque quand même de t'aligner un milieu demain. Gundogan, Frankie de Jong, Pedri.
Vous savez, depuis quand le PSG a pas pris but à l'extérieur en Ligue des Champions? Une petite stade, Jimmy Brown.
À l'extérieur.
La dernière fois que le PSG n'a pas pris de but à l'extérieur en Ligue des Champions.
Ah, qu'ils n'ont pas pris de but,
ouais.
Carrément.
Ouais.
Au moins 2 ans. Au moins
plus.
Ça date d'un match en 2020 contre Başakşehir.
Ah, mais je pensais que tu parlais des allers-retours.
Les matchs à l'extérieur de Ligue des Champions.
À l'extérieur.
Ouais. 2020.
Ah oui. Non, mais à l'extérieur, le PSG, c'est ça que.
Le PSG a aussi marqué des buts à l'extérieur. C'est pas.
Non, voilà. Mais le PSG a très peu de références à l'extérieur en Ligue des Champions. Sur le nombre de matchs depuis 2013 en Ligue des Champions à l'extérieur, il y a à peine une poignée de matchs dont tout le monde se souvient. Le 2-2 à Chelsea, le 3-2 à Munich.
La victoire à Barcelone.
Et la victoire
au Barça,
et la victoire à Barcelone. Ça fait peu. Ça nous dit que c'est pas complètement impossible. Et là où on a encore moins de références, c'est dans le contexte aller-retour. Le PSG a souvent réussi des matchs aller. Les matchs retour, là, on réduit encore plus la portion de succès. Le match retour, c'est pas quelque chose.
Ça n'est jamais arrivé. Le PSG ne s'est jamais qualifié après avoir perdu le match aller à domicile.
Le PSG dans un match retour.
Aucun club français, je crois d'ailleurs, de la fin Ligue des Champions, si je me trompe pas. Aucun club français s'est qualifié après avoir perdu le match aller à domicile.
Les indices sont tous au rouge. Il faut qu'on voit demain soir quelque chose qu'on n'a pas vu à Paris depuis très longtemps. Parce que même le match extraordinaire à Munich, qui était particulier, machin, où tu termines quand même le cul dans ta surface tellement t'es bousculé. Bon, tu le gagnes. Avec un but d'écart.
2-1.
Et 2-1 ou 3-2 ?
3-2.
Bon, un but d'écart. Ce qui ne te ferait même pas gagner demain, t'emmènerait à la prolongation. Pourquoi pas ? Ce serait déjà bien d'aller à la prolongation demain, tu vois. Mais il y a quand même très peu d'éléments qui peuvent te porter à croire.
Non, mais il y a surtout
le Barça progresse, le Barça a récupéré ses joueurs.
Là où il y a peu d'éléments,
il n'y
a pas cette année de match, de gros match de référence du Paris Saint-Germain. C'est, on peut réfléchir à tout ça dans tous les
Dortmund
sens.
Dortmund en poule.
Dortmund, mais l'aller.
Oui, mais au parc.
L'aller.
Oui,
au parc. Et Milan au parc. À l'extérieur, il y a
la phase de poule de Paris. On l'oublie. La phase de poule de Paris, c'est 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Ils ont pris autant de points que Lens. Ils ont jamais fait un parcours aussi médiocre en Ligue des Champions. Donc moi je veux bien qu'Enrique soit le grand Mamamouchi qui transforme tout ça en or, mais la phase de poule du Paris Saint-Germain, elle est très médiocre. Après il y a la Real Sociedad.
Elle est dans un groupe difficile.
Oui,
il y a
eu
des groupes beaucoup plus faciles dans l'histoire du PSG, mais ça n'enlève pas grand chose à ce que tu dis, dans le sens où ils ont eu du mal et que ça n'offre
pas de. Où sont dans leur championnat aujourd'hui, Daniel? Regardez où sont dans leur championnat Newcastle, Dortmund et le Milan AC. Et dites-moi que ça c'est des adversaires de top niveau européen.
Non, mais il y a des poules qui étaient plus simples.
Oui, d'accord.
Je veux dire, aller jouer à Milan en Ligue des Champions, aller jouer à St. James Park ou à Dortmund, c'est pas facile. Voilà, c'est tout. C'était quand même pas un groupe simple. En être sorti, c'est déjà bien pour cette équipe-là. Mais le problème, c'est que cette construction, moi, c'est ce que je répète tout le temps, elle a été un peu cassée. Entre le début et ce que j'envisageais de la progression de cette équipe et aujourd'hui, j'ai pas vu d'énormes améliorations dans le jeu pratiqué, dans les certitudes, dans les circuits entre les joueurs. On parlait beaucoup de Hakimi Dembélé au début de la saison. Ça, c'est terminé. Parce que Dembélé, ensuite, a un peu changé de place. Parce qu'Hakimi a très vite plus les performances qu'il avait au début de la saison. Parce que l'histoire Mbappé, parce que Ugarte est sorti de cette équipe en étant moins bon, c'est vrai. Mais peut-être fallait-il lui maintenir un petit peu de confiance parce que le PSG a besoin, devant la défense, de quelqu'un, ou en tout cas au milieu, de quelqu'un qui, avec Zaire Emery, court beaucoup et ramasse des ballons pendant que Vitinha essaye de distribuer parce que c'est le joueur le plus habile dans cette équipe-là. Bref, on se retrouve. Cette équipe, si c'est celle qui est annoncée, elle me plaît, même si, avec la réserve, que moi j'aurais mis Ramos. Parce que Barcola.
Là, c'est pas Kinder Surprise. Là, c'est le Kinder Surprise. T'as déjà le joué et tu l'as joué 10 fois.
Ouais. Ouais.
Tu vois ?
Ouais. D'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Maintenant.
Il y a deux éléments. Il y a un manque de certitude par rapport à ce qu'est capable de faire le PSG. On parle d'exploit. Ça veut dire qu'on situe bien la chose. C'est un peu, on attend on-off demain. On attend qu'il y ait une espèce de performance qu'on n'a pas vue cette année. C'est ça qu'on attend du Paris Saint-Germain.
Et rajoute un élément dans ce que tu n'as pas vu cette année. Quart de finale. On l'a très peu dit d'ailleurs. Parce que là aussi, c'est une habitude malheureuse. Le PSG est l'équipe qui a le moins couru des quarts aller. Ça, c'est bizarre. Parce que moi, je pensais qu'avec Luis Enrique, on n'aurait plus tellement ce genre de choses-là. Il faudrait comparer avec le début de saison.
Il y a la perf personnelle de Mbappé pour le coup. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écart avec les autres.
Peut-être lui qui a fait baisser toute la moyenne.
Comme j'ai entendu qu'il avait couru 7 km.
Il a peut-être fait baisser toute la moyenne.
S'il a couru 7 km à l'aller, c'est embêtant.
C'est quand même l'équipe qui a le moins couru. Et ça, c'est un problème récurrent année après année.